prend le téléphone à côté de l'ordinateur, elle passe ses doigts sur ses lèvres trop sèches, pendant que de l'autre main les doigts écrasent bien fort le papier pour maintenir le calepin ouvert. Elle ferme les yeux. Numérotation. Sonnerie. Une femme à l'autre bout. Et Sibylle qui improvise une voix enjouée, souriante, détachée et légère. « Bonjour Madame Fournier, c'est Sibylle. » « Oui, la petite voisine, oui, c'est ça, la fille de Vadim. »« Oui, longtemps, tellement longtemps, c'est vrai. »« Le petit? Il est grand, vous savez. »« 16, oui, ça pousse vite. » »« Mon mari? On est divorcé maintenant, mais il va bien. »« Non, 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 ne soyez pas désolé, vous n'y pouvez rien. » Et Sibylle commence à dessiner avec un stylo à billes bleues sur une feuille de papier qui sera bientôt recouverte de chevaux, de montagnes, d'yeux géants. Elle appuie très fort, des arabesques naissent et les formes s'enlacent, s'enchevêtrent des ombres, des rivières et des formes géométriques, cubes, sphères qui flottent au-dessus du vide. Oui, je voudrais parler à votre mari. Merci, merci, oui. Bonjour, monsieur Fournier. Oui, c'est Sibylle. Oui, ça me ferait tellement plaisir de revenir, de revoir la maison. Mais c'est trop loin, avec le travail, je... Écoutez, je ne peux pas vous parler trop longtemps. Vous savez, à la mort de maman, quand je vous ai dit que je ne vendrais pas la maison, vous m'avez dit que si je changeais d'avis, vous seriez prêt. Oui, voilà, j'ai changé d'avis. Je veux vendre. Non, non, rien de grave. J'ai un projet, besoin d'argent, vous comprenez? On peut se voir? Oui? Samuel regarde son radio-réveil. 16h03. Il se lève et va ouvrir le volet. La lumière du jour lui éclate au visage. Il ferme les yeux et repousse le volet. Il s'assied à son bureau. Sa chaise roule et il veut la stabiliser. Alors il pose ses avant-bras sur le bureau. Maintenant sa tête tient dans ses mains. Il somnole et pourtant il se décide à activer son ordinateur pour regarder s'il a des messages. Oui, il s'attarde devant l'écran, puis il prend son casque et revient vers son lit, se laisse tomber. Il regarde le plafond et les premières notes d'une chanson de David Bowie viennent lui remplir le cerveau. Quelque chose enfin pour combler ce vide douloureux qu'il ressent dans sa tête, dans les articulations. Quelque chose pour consolider le rythme de sa respiration dans sa poitrine. Putain, merde, qu'est-ce que je vais foutre maintenant? Alors il va sortir de sa chambre, la musique à fond sur les oreilles comme pour se protéger. Comme s'il ne sortait pas tout à fait de sa chambre parce que la musique lui offrait une protection. Alors vite, aller pisser, se laver, se changer, foutre ses fringues sales. C'est comme si David Bowie et lui allaient affronter tous les deux le couloir, qu'ils allaient ensemble traverser le salon et avancer vers la cuisine. Sur la table du salon, il aura le temps de jeter un regard, furtif mais suffisamment précis malgré tout pour réussir à lire sur les couvertures des livres et des magazines, un guide du routard, un petit futé, des images de chevaux, et puis le froid qui vient de la fenêtre ouverte. Putain, ça caille, qu'est-ce qu'elle fout encore? Lorsqu'il arrive dans la cuisine, il aperçoit Sibylle, de dos, penchée sur l'évier. L'eau coule du robinet. Samuel ne l'entend pas, mais voit le débit puissant et les mains de sa mère qui lavent des légumes, carottes, navets, patates. Sur la table de la cuisine, des épluchures, une passoire, un économe sale. Sibylle ferme le robinet. Elle serre les poignets à fond, mais le goutte à goutte persiste. Elle essaie de les fermer mieux. Elle insiste, les doigts mouillés, mais n'y parvient pas. Elle se maudit encore de ne pas avoir pris le temps de le changer, ce putain de robinet. Parfois, elle a l'impression que des choses aussi ridicules la rendront folle. Qu'elles sont aussi importantes et plus perverses encore qu'un mari dont il faut divorcer, parce qu'il y a suffisamment de raisons pour ça. Maintenant, elle serait prête à fracasser le robinet à coups de pierre. Elle pense à une pierre plate et grise, granuleuse, qu'elle a depuis longtemps et qu'elle garde comme presse-papier. Mais la pierre est trop loin, quelque part sur son bureau, dans sa chambre. Il aurait suffi d'aller dans n'importe quel magasin, qu'elle prenne le temps de le faire, elle le sait, c'est de sa faute. D'ailleurs, tout ce qu'elle ne fait pas dans cet appartement, tout ce qui attend, les choses n'y sont pour rien. C'est elle seule qui est responsable. Soudain, elle perçoit un bruit. La porte du frigo qu'on ouvre et qu'on referme. Des glissements de pieds sur le carrelage et ce bruit strident de la musique qui vient d'un casque. Elle se retourne. Samuel est là. Il ne la regarde pas. Sa tête balance pour marquer le rythme de la musique. Il ferme les yeux, absorbé. Il en fait trop, se dit-elle, simplement pour la provoquer et ne pas l'affronter vraiment. Il tient une bouteille de coca dans la main et déjà il est en train de repartir vers sa chambre.